Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chute, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chute, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marais Morin en écoutant Chute, on écoute la télé. Marais Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marais-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chute, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors vous savez pas ? Eh bien on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien oui, c'est parti.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Allez, au menu de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo, ils vous font rire sur scène partout en France. Les jumeaux Christopher et Steven vont nous rejoindre dans une poignée de secondes pour nous parler de leur spectacle. Nos coups de cœur télé cette semaine largement consacrés à Carpe Diem qui débarque ce soir sur TF1. Julien Guérif, Pierre Isoard et Samuel Le Bihan seront avec nous. On va parler aussi de Après la nuit, la mini-série de France 2 qui débarque ce soir, également avec Marie Malia qui sera notre invité. Vous l'avez peut-être découvert dans le rôle de Lola dans Plus belle la vie. C'est dans un tout autre registre que vous allez découvrir Marie ce soir. Elle vient nous en parler. Et puis on va parler de Tropique criminelle. C'est le grand retour vendredi sur France 2. Les deux héroïnes Sonia Roland et Béatrice de Haboulé seront avec nous, seront nos invités. Et puis on ne peut pas se quitter sans notre gros coup de cœur ciné cette semaine consacré au premier film d'Enya Barou intitulé On ira. Enya Barou sera notre invité avec ses deux héroïnes Juliette Gasquet et Hélène Vincent qui seront là pour terminer cette émission.
L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, les jumeaux sont nos invités, on dit jamais 203 et c'est la troisième fois qu'on les accueille dans notre émission Chute, on écoute la télé. Christopher, bonjour.
Bonjour.
Steven, bonjour.
Bonjour.
Vous avez vu, je me trompe pas, hein, ce coup-là.
C'est ce que j'allais dire, au pif, non, le mec, non, bah trois fois.
Pas du tout, au bout de la troisième fois.
La première fois, il savait pas, hein. Il m'a appelé Stéphane, il t'a appelé Christian.
Exactement, vous nous faites toujours autant rire. C'était la troisième fois que vous venez au Festival Escale du Mont à Royan, vous êtes en tournée partout en France, vous allez continuer sur 2026, le public est toujours là et ça c'est génial.
Ouais, on est super content du résultat de ce spectacle. Il a 3 ans, il a à peine 3 ans. Le spectacle a été créé en début 2022 et il marche de mieux en mieux, il marche de plus en plus. On est de plus en plus à l'aise aussi avec le texte et donc quand on est à l'aise avec le texte, avec l'impro, parce qu'on a beaucoup d'impro dans les spectacles. Et ouais, on se régale de le faire depuis 3 ans et je pense qu'on va le faire encore au moins 2 ans. Ouais.
Steven,
on est parti pour un quinquennat. C'est en général, c'est les spectacles, c'est 5 ans, donc on est encore parti jusqu'au moins 2027 à mon avis même. Ouais.
En hommage à vos personnages de prédilection, Nicolas et Carlita.
Évidemment, alors on le fait que en rappel dans celui-ci, vraiment comme une cerise sur le gâteau, mais bon, c'est comme un tube, les gens nous le réclament, donc on leur fait, on leur donne.
C'est culte.
Oui, c'est ça, on a la chance d'avoir un sketch culte, alors on est obligé de le faire, sinon les gens nous attendent à la sortie pour nous casser la gueule.
Et pourtant, on retrouve toujours votre esprit, et moi ce que j'aime chez vous les garçons, c'est vraiment toujours cette bienveillance, cette gentillesse qui émane de vous, et c'est jamais méchant, c'est jamais, voilà, et ça le public il vous le rend bien aujourd'hui, s'en rendre compte.
Ouais, c'est ça, on a voulu écrire un spectacle bienveillant, on disait sur la famille, pour la famille, c'est-à-dire qu'il faut que ce soir avait encore une fois tous les âges dans la salle. On a vu qu'il y avait des enfants, les enfants de notre tonton qui devait avoir une dizaine d'années, que vous avez 12, 14 ans, et la mamie d'à côté de 70 ans. Ils doivent se marrer au même moment. Et quand un enfant de 10 ans se marre au même moment qu'une mamie de 70 ans, on se dit qu'on a réussi notre coup parce qu'on a écrit un spectacle qui plaît à toutes les générations, qui plaît à tous les âges, qui plaît à tous les mêmes milieux sociaux, on va dire. Voilà, l'ouvrier peut se marrer au même moment que le cadre supérieur, et ça nous plaît vraiment. Donc oui, et puis la bienveillance, c'est ce qu'on voulait de faire dans ce spectacle. On trouve que l'humour est très cynique en ce moment, et c'est plus facile d'écrire de l'humour cynique parce que c'est des méchancetés, des trucs vulgaires. Nous, c'est pas notre style. On a voulu aller contre cette facilité-là, et je pense qu'on a réussi, Steven, de écrire ça.
Même si moi je suis plus ouvrier et toi t'es plus cadre.
Ouais, c'est vrai, ça faut voir le spectacle pour le comprendre.
Vous évoquez évidemment aussi la paternité, les cheveux poivre et sel. Il y a quand même une certaine maturité quand même dans ce spectacle aussi.
Bien sûr. Bah, c'est la première fois qu'on a écrit un spectacle où on voulait parler de nous. À chaque fois on a parlé de nous, mais de façon toujours un petit peu soit absurde, soit un peu plus imagée. Tu vois, on faisait la colocation dans le ventre de maman dans le premier spectacle. C'est, ça parlait de nous, mais c'était plus voilà, c'était plus des sketchs absurdes. Et là, c'est vraiment on parle de nous comme du stand-up, quoi. C'est-à-dire qu'on raconte notre vie depuis qu'on est tout petit. On raconte même la vie de nos parents quand ils ont appris qu'ils avaient des jumeaux, jusqu'à aujourd'hui nous qui sommes devenus papa. Donc il y a ce fil rouge en fait de l'éducation et de la transmission. En fait, on a retransmis l'éducation que notre papa nous avait fait à nos enfants, sans s'en rendre compte au début. On en parle un petit peu. Et c'était vraiment une volonté, ouais, de se dire qu'à à 37 ans, quand on l'a écrit, c'était pendant en 2021, donc on avait 34, 35 ans. Et on s'est dit, allez, c'est peut-être le moment de se dire qu'on peut parler de nous. On sent enfin légitime à le faire. Et on s'est dit, est-ce que ça va intéresser les gens? Et en fait, on se rend compte qu'en faisant le spectacle, que tout le monde est un peu comme nous, quoi. On a tous les mêmes mariages, on le dit à la fin, quand on fait les danses de mariage. On a tous vécu la même éducation par nos parents.
T'es fan des mariages, Steven?
Je suis fan des danses de mariage, évidemment. Moi, le mariage, bon, le mariage, la cérémonie, le vin d'honneur, c'est sympa. Mais le mariage commence quand il y a Madison qui est partie. Sinon, c'est pas un bon mariage. On en parle dans le spectacle, voilà. En tout cas, ce qu'on veut, c'est que les gens se reconnaissent et le font vraiment. On est de classe moyenne, on a vécu, voilà, on n'a jamais, comme on le dit au début, on n'avait pas de cuir d'argent dans la bouche quand on est né. Donc, on a la vie de tout le monde, en fait. En fait, on est très moyen. Mais du coup, on se rend compte que tout le monde est moyen. Et ça, c'est super cool, quoi. De se dire que les gens se reconnaissent dans notre vécu, quoi.
On disait, il y a quand même le sketch culte hein, avec Nicolas et Carlita, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais il y a aussi une très belle surprise qu'on dévoilera pas évidemment à la fin du spectacle, mais une surprise aussi très émouvante qui nous permet de vraiment de comprendre plein de choses. En tout cas.
Ouais, bah on s'est dit quitte à parler de nous, allons à fond, allons vraiment donnons-leur au public vraiment cette intimité. Et vrai, ouais, faut aller voir le spectacle pour comprendre même le serment qu'on a écrit à la fin, le serment et on voulait finir sur une note touchante et puis cette petite cerise sur le gâteau final, il faut voir le spectacle pour le comprendre. Mais ouais, on s'est dit quitte à y aller, on y va à fond quoi et on montre tout quoi.
Ça
on
permet de nous connaître encore beaucoup plus que ce qu'on raconte. Voilà, c'est vraiment, on est très dans l'intime, c'est un peu impudique, mais voilà, c'est fait de façon vraiment comme un cadeau à la fin de se dire voilà, tout ce qu'on vous a dit, vous allez le voir vraiment quoi.
Ce spectacle, il s'appelle alors Dans l'ordre.
Bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci.
C'est beau. C'est très très beau. Est-ce que vous avez des projets en dehors de ça qui vous attendent? Et si on vous proposait peut-être un rôle dans une série télé ou quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait ça?
Ouais, ça nous plairait. Faire de la fiction, c'est un truc qui nous titille depuis quelques temps. Maintenant, c'est pas facile parce qu'on est deux déjà. Donc, est-ce qu'on nous propose des rôles de jumeaux? Est-ce qu'on nous propose
des jumeaux? Sinon, il y a pas trop d'intérêt.
Enfin, des rôles séparément pour l'instant, c'est compliqué dans le sens où on en tourne tout le temps, on tourne beaucoup, on adore ce qu'on fait. Maintenant, oui, la télé, le cinéma. Peut-être écrire aussi nous-mêmes des soit de la fiction, soit des pièces de théâtre. Enfin voilà, c'est tous des projets qu'on a pour la suite. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le spectacle est plus mature que les premiers. Donc l'évolution normale, on va dire logique, c'est ouais, peut-être d'écrire des fictions et des choses qui sont encore plus propres à nous. Donc ouais, ce sera peut-être à la quarantaine, la crise de la quarantaine, on fera une vraie crise de la quarantaine peut-être.
Voilà, on évoluera un petit peu dans nos projets, dans notre écriture, mais on a toujours des nouvelles choses à faire. On a 10 000 projets sur le feu en fait.
C'est juste que pas, parce qu'on n'a pas le temps.
Non. En fait, on est tellement content de faire ce qu'on fait actuellement. En fait, d'être sur scène, je pense que c'est la chose qu'on préfère. Donc, on a du mal à se dire, on va faire autre chose tant que ça marche, qu'on est en tournée. Un jour, il faudra se forcer un peu. Voilà. Mais on le fera, hein, on le fera. On fera des pièces.
Vous avez bien raison. Vous avez envie d'aller rire pendant 1h45 sur scène. Ils sont complètement déjantés. On les adore, en tout cas. Les jumeaux, ça tourne partout, justement, pour ce tout nouveau spectacle. On va écouter un petit extrait. Juste après, je vous donne toutes les dates près de chez vous. Merci à vous, les garçons.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
On compare.
Lesfurets.com.
La comparaison qui revient souvent en ce moment, c'est les jumeaux, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Le pire, c'est que le coup, vous venez de vous dire, c'est vrai qu'il y en a qui est plus gros que l'autre. J'ai senti dans votre silence là, hein. Et ne dites pas lequel, c'est juste que vous voulez dire. De toute façon, il le sait très bien.
Ta gueule, et là...
C'est pas drôle.
Ils ont rigolé un
peu. Je m'en fous. Tous les deux, on gagne pas le même salaire.
Ouais, mais ça, c'est peut-être trop de transparence.
Non, c'est pas vraiment, on gagne pas la même chose.
Oui, mais les gens sont pas là pour.
Il y en a un qui gagne plus que.
Oui, mais c'est pas la question.
Et c'est lui.
Ouais.
Tu sais, papa, quand il nous engueulait, il disait Regarde-moi quand je te parle. Et après, il nous disait Baisse tes yeux. Et nous, on était là.
attention, hein, et la quiche, du lille.
La quiche, comment on fait?
Graines de pavot et vin bio. C'est pas du vomi, c'est du compost. Elle est sensible à la cause animale, du coup j'en consomme moins. Bon, la mienne est plutôt sensible à la cause des femmes.
Du coup j'en consomme moins.
Maintenant. On n'est pas très fiers de cette blague-là, en vrai. Non. Mais bon, vous avez rigolé, donc quelque part vous êtes complices.
Voilà. Voilà, les jumeaux que vous retrouverez sur scène du côté de Rennes du 1er au 5 avril et à Nantes du 10 au 12 avril. Vous les retrouverez également dans le Nord, à Clermont-Ferrand, du côté de Lille aussi le 24 mai ou encore à Arras le 30 mai avec des dates supplémentaires en Bretagne qui tombent. Bref, ils sont en tournée partout en France, les jumeaux à retrouver sur scène. On va marquer une courte pause, on va se retrouver dans un instant avec nos coups de cœur télé. Dans un instant, Marie Malia, Samuel Le Bihan, Sonia Roland, Béatrice de Aboulé débarque dans Chut, on écoute la télé, à tout de suite.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant, à tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Ton verre est plein, est-ce encore de ma faute? Si tu le vides, ce le sera sans faute. J'ai trébuché sous le poids de tes mots, mais relevé, tout ne sonne pas si faux. C'est faux. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. C'est bien ma faute, ma faute. La nuit est calme, sans le son de ta voix. Si tu la hausses, ce ne sera que sur moi. Je reste seule, assise avec mes larmes. Celle qui reste, après tout le vacarme. C'est bien ma faute. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Parfois je ne te reconnais même pas. J'entends le bruit sans entendre ta voix. Tu vois, je t'aime malgré tout ça. Maintenant je sais que c'est pas moi. Pourtant je suis tombée si bas. Avec toi je ne m'aimais pas. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Ma faute. Crier à l'aide, à perdre haleine. Tu m'as dit c'est ta faute. Crier à l'aide, à perdre celle que je pensais si forte. Mais l'inverse est passé quand j'ai claqué la porte. Sans toi beaux jours reviennent, ce sera plus jamais ma faute.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à la mini-série Après la nuit qui débarque ce soir sur France 2. À l'occasion, nous avons l'une des héroïnes de cette série qui est avec nous et d'habituée de l'émission. Bonjour Marie-Malia, merci d'être avec nous.
Eh ben, c'est un plaisir toujours, alors.
Écoute, franchement, on va te retrouver pour cette série événement sur France 2, un sujet difficile et en plus inspiré d'une histoire vraie. Qu'est-ce qui t'a plu, en tout cas, déjà dans ce projet ? Le challenge aussi ?
Déjà, je pense que c'est une cause qui est à défendre. Je pense que c'est important d'informer les gens sur ce qui se passe, en fait, ce qu'on essaie toujours de cacher. Il y a une grande loi du silence sur les agressions sexuelles, les viols, etc. Donc je trouvais ça important de pointer le doigt dessus et je suis très heureuse parce que mon personnage se laisse pas du tout faire en fait dans cette histoire et elle hurle ce qui lui est arrivé, elle hurle sa colère et j'étais ravie de jouer ça et de pouvoir montrer justement toute cette rage. Moi j'ai beaucoup joué le côté rage de la victime en fait et je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir justement hurler ce qui se passe partout en fait et on en parle si peu même si en ce moment on en parle beaucoup plus notamment dans le monde du cinéma mais voilà pour moi c'était vraiment important de défendre un truc comme ça et vraiment quand j'ai eu le casting plus que n'importe quel autre projet je pense j'ai vraiment voulu l'avoir parce que je voulais vraiment passer ce message là en fait.
Alors justement parlons du casting, à tes côtés il y a plein de comédiens hyper talentueux.
Oui, alors il y a Raphaël Langlais, on a aussi Charlie Bruno, et enfin plein de gens, Grégoire Bonnet, plein de monde, super. Et en fait, on a surtout une très belle équipe de femmes. Vraiment, cette série, elle met vachement à l'honneur les femmes, je trouve ça vraiment important.
Oui, parce qu'on parle d'un violeur en série quand même qui a sévi pendant des années, qui aurait violé plus de 30 femmes, enfin c'est pendant 15 ans, c'est juste quand même l'horreur, donc il s'agit absolument pas justement de mettre en valeur cette personne, mais au contraire justement de mettre en valeur le combat de 4 de ces femmes, justement où l'histoire est inspirée évidemment, et tu joues une de ces 4-là.
Bah alors moi du coup je joue Camille Leroy, qui est alors comment dire, elle a un style déjà un peu punk à chien que je trouve vachement marrant, très coloré, très rési, etc. Elle est en école d'art du coup. Elle a de grands problèmes familiaux, elle a pas eu un cadre hyper cool, sa mère pas très présente, le père je sais même plus, je crois que encore moins. Enfin bref. Donc voilà, c'est déjà une fille qui part avec pas mal de soucis et voilà.
Qu'est-ce qui t'a séduit chez elle ?
Camille, bah justement sa vivacité, sa force, ses convictions. Camille, elle a un courage que je n'aurais jamais. Elle est d'une puissance qui est incroyable et vraiment tous les jours j'étais en osmose avec elle et j'étais ravie d'être elle vraiment.
Parce qu'une fois qu'il va y arriver ce qui lui arrive dans cette série, est-ce que ça va changer complètement son comportement ou elle avait déjà quand même un peu de rage en elle sur la vie en général ou vraiment là ça a accentué ou modifié vraiment profondément le caractère du personnage ?
Bah déjà ça arrive très vite, hein. Je pense qu'on voit quelques séquences de moi, peut-être 2-3 avant la séquence de viol, hein. Donc on n'a pas trop le background du personnage. Mais en fait, ça se voit déjà à la base que c'est quand même une fille péchue qui se laisse pas faire, quoi.
Du caractère.
Oui, et je crois que ça va en s'aggravant et qu'en fait, plus le temps passe et plus rien ne se passe, en fait, plus elle est en colère et plus elle est déchaînée.
Une série comme ça, on imagine les scènes difficiles peut-être que tu as pu avoir à tourner aujourd'hui. Je crois que le réalisateur s'est battu pour qu'il y ait coordinateur d'intimité pour le coup sur le tournage, ce qui devrait être le cas sur bon nombre aujourd'hui de séries ou de films. Ça change quoi concrètement d'avoir un coordinateur ?
Alors, déjà,
coordinatrice.
C'était une coordinatrice. C'est vrai que oui, on s'est toutes battues aussi les comédiennes pour avoir cette coordinatrice d'intimité et le réal était à 100% avec nous. Donc ça, c'était génial. Et en fait, en quoi ça consiste une coordinatrice ? En fait, ça peut être très utile comme pas trop utile, mais je pense que c'est bien d'avoir ça. C'est comme avoir un airbag dans sa voiture. C'est mieux si t'en as pas besoin, mais dans l'idée, t'en as besoin. Et en fait, c'est quelqu'un déjà qui va te beaucoup te parler avant, qui va faire le lien entre les deux comédiens, parce que là, on joue un viol, donc c'est d'autant plus pas marrant du tout, mais même pour jouer des scènes de sexe de base, c'est pas marrant non plus, mais bref, donc c'est quelqu'un qui va créer le lien, voir où sont les insécurités des autres, être là pendant la séquence, parce que c'est vrai que un réalisateur, il est là au jeu, mais en fait, il est beaucoup concentré sur ses plans, toute son équipe qu'il doit gérer, et donc c'est vrai que c'est compliqué pour lui de venir te voir et de te dire « ça va, tu te sens bien, qu'est-ce que tu... » Et donc en fait, la coordinatrice, elle est vraiment là pour s'assurer de ton bien-être, vérifier que tout va bien. Elle, elle vient avec son matos, etc. Le matériel pour les scènes de sexe de cinéma. Donc t'as des coussins, des culottes couleur chair, des trucs comme ça. Enfin bref, elle arrive avec tout son matos. Elle gère le truc pour qu'il y ait le moins de contact possible aussi, pour pas que ce soit gênant. Parce que très sincèrement, c'était autant gênant pour moi que pour le comédien qui jouait le violeur, en fait. Et en plus, lui, il a dû le faire avec 5 femmes. Donc c'était quelque chose. Mais bref, donc la coordinatrice, elle est là pour tout ça sur le plateau.
Elle est là pour vous aider vraiment et pour pouvoir parler aussi en cas de besoin, quoi.
Voilà. Mais ensuite, moi par exemple, ça a pas été utile, mais je sais qu'elle m'a envoyé un mail en me disant si jamais après dans la suite du tournage tu vois que tu te sens pas bien par rapport à cette séquence là, tu peux m'appeler, on peut en parler, on peut en discuter, comprendre pourquoi, etc. Donc c'est vraiment un suivi du début jusqu'à la fin. Et je pense que s'il y a besoin, c'est important que ce soit là, vraiment.
6 fois 52 minutes, une mini-série évidemment à découvrir sur France 2 dès cette semaine. Marie, évidemment tout le monde t'a connue pour ce rôle solaire et aussi de fille franche de Lola Corcel dans Plus belle la vie. Je sais que c'est quelque chose que tu renieras jamais, ça a été un tremplin pour toi, cette série, qui t'a permis après, derrière, d'accéder à de nombreux rôles, Les combattantes et plein d'autres encore, la série L'Abîme avec Gilles Alma et Sarah Mortensen. Franchement, c'est assez dingue pour le coup ce parcours que tu as depuis. Mais c'est vrai qu'on voit souvent quand même les fans tristes de pas te revoir dans Plus belle. Est-ce que toi, en tout cas, si on t'appelait, même pour une intrigue, événement, est-ce que tu auras envie d'y retourner?
Ah mais évidemment, et ils le savent, moi de toute façon je suis toujours très amie avec tout le monde, je vais souvent à la production, enfin voilà, on s'entend très très bien. Maintenant je sais que c'est pas un choix qu'ils ont fait, ils ont pas dit Marie on l'aime pas, on veut plus la voir, c'est que c'est beaucoup de décisions scénaristiques aussi. Mais en tout cas voilà, on s'entend très bien et ils m'ont dit vraiment avec plaisir, si on a besoin de toi on te rappelle. Et je leur ai dit mais avec plaisir je reviens aussi, donc oui franchement j'adorerais, franchement c'est toujours un plaisir et je pense qu'ils le savent en tout cas que je reviendrai toujours s'ils ont besoin de moi.
T'aimerais réaliser aussi?
Mais alors, j'ai fait récemment une formation de réalisation, écriture et montage. Et c'était incroyable. C'était vraiment génial. Et en plus, j'étais assez contente parce que je me suis vachement bien débrouillée, je trouve. Et je pense que ça, c'est pas grâce à rien. C'est pas parce que je suis super intelligente, hein, j'ai pas inventé l'eau chaude. Mais j'ai tellement vu autour de moi de réalisateurs fonctionner... que en fait ça a été un petit peu instinctif pour moi et donc je pense pas que demain je pourrais sortir le projet de l'année, mais que il y a cette formation là m'a permis de comprendre.
Peut-être commencer par un petit court-métrage dans pas longtemps.
Voilà, il y a quelque chose d'exploitable en tout cas de ce côté-là, je pense, et j'adorerais, peut-être pas maintenant mais sur le long terme, pourquoi pas.
Marie, on t'embrasse. Merci infiniment en tout cas d'avoir été avec nous. On rappelle qu'on te retrouve donc dès ce soir sur France 2 dans la mini-série Après la nuit. On te fait plein de bisous et on te dit merci d'avoir été avec nous en tout cas.
À bientôt, merci beaucoup Alain.
Et on se quitte avec la bande-annonce.
Je vais enquêter sur les viols, il se passe quelque chose. Je vais ouvrir le rideau et il était planté là.
Qui?
Un homme.
Il est venu chez moi, cette nuit.
C'est le même, Steph.
Il y a eu un autre viol avant Camille Leroy.
Qui?
Ils ont arrêté un mec.
Le capitaine Romanova, qui est officier de police.
C'est le frère de Stéphanie Duval. Leur père est mort quand ils étaient ados.
Il est professionnel en criminologie?
Ils y pensent même pas.
Quoi?
Lui demander son aide.
Qu'est-ce que vous savez exactement sur les agressions? Je suis convaincue que c'est le même homme, c'est le même mode opératoire.
Oh putain.
Tu dis rien, d'accord, à personne? Non. Qu'est-ce qu'elle veut là?
Une quatrième victime.
Je sais que vous avez entendu parler de cette rumeur.
Pas une rumeur.
Mais Stéphanie, la parole de tout le monde est...
Il m'a violée.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine est consacré à Carpe Diem, nouvelle série événement de TF1, écrit à quatre mains par Julien Guérif et Pierre Isoard, qui réalise également, bien sûr, un des comparses fidèles de Samuel Le Bihan. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Carpe Diem, c'est une vraie bouffée de fraîcheur. À la fois, même si on part quand même de quelque chose de dramatique, hein, d'un homme qui passe 17 ans en prison, injustement accusé à tort du meurtre de sa femme, mais qui va jamais lâcher, qui va étudier le droit et qui va ressortir de prison carrément avocat. Et c'est ça qui amène des situations assez drôles. C'est que c'est du coup quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et qui ose tout. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce personnage. Qui a eu l'idée entre vous deux? On va en parler avec Samuel, hein, évidemment, dans un instant aussi. Mais qui a la genèse un peu de Tom?
Bah, c'est une idée qu'on a eue tous ensemble. C'est parti d'une envie de Samuel de jouer un avocat à Nice, un avocat roublard et puis décalé, qui se prenait pas au sérieux. Et à partir de là, on a planché sur une situation dramatique qui pouvait permettre de mettre un peu ce personnage sur orbite. Donc on a eu plusieurs idées et finalement on s'est mis d'accord sur le fait qu'il ait été en prison pour un avocat, c'est ce qu'il y avait de plus cocasse, c'est ce qu'il y avait de plus original. On s'est renseigné pour savoir si c'était possible. parce qu'on voulait pas écrire quelque chose de complètement hors sol. Il se trouve que ça l'est, c'est très rare, il faut une autorisation du bâtonnier, mais c'est possible. Donc quand on l'a su, on s'est dit ok, amen, c'est ça.
C'est ça justement que j'avais posé une question. Est-ce que vraiment c'est une situation du coup possible? Et là, tu viens de répondre, Julien, mais c'est hyper intéressant en fait d'apprendre ça quand même.
Il faut une dérogation de la autorité du barreau de Nice, donc c'est vraiment rarissime, mais c'est déjà arrivé, pour des crimes de sang en plus, ça a dû arriver une fois ou deux dans l'histoire du droit français, donc c'est pas quelque chose qu'on peut qualifier de commun, mais à partir du moment où c'est arrivé, nous scénaristes de fiction, pour une série comme ça, qui a un ton qui n'est pas forcément réaliste, mais qui veut quand même s'ancrer dans quelque chose de pas complètement farfelu, on s'est dit que c'était une possibilité. Et c'est vrai que ça ouvrait pour le personnage des choses beaucoup plus intéressantes que d'autres idées qu'on avait eues, qui étaient peut-être plus classiques.
Pierre, il y a une fidélité entre vous depuis Alex Hugo. C'est vrai que c'est une amitié indéfectible. Tu réalises très souvent, vous vous connaissez par cœur finalement avec Samuel aujourd'hui.
On se connaît même tous les trois avec Julien maintenant un peu par cœur parce qu'on a fait beaucoup de projets. Là, les deux dernières années ont été très denses. On a beaucoup travaillé et surtout, il y a une confiance mutuelle qui fait qu'on peut aller explorer des terrains plus dangereux, plus osé, on peut sortir de notre zone de confort. Ça a été facile de rester sur Alex Hugo et voilà, une série qui marche bien, qui est très populaire.
C'est pas le modeste, hein, c'est une des deux premières audiences de France Télé quand même.
Oui, mais moi je suis très fier d'Alex Hugo et d'avoir participé à ce succès, d'être même à l'origine au départ, mais on a toujours envie de se renouveler, c'est un peu de notre liberté, c'est ça qui nous anime. Et là, quand Samuel nous a parlé de son envie, on a rebondi dessus et c'était juste, je crois, une grande récréation. C'est beaucoup de travail, c'est un travail fait avec beaucoup de sérieux, mais c'est aussi une grande récréation. Tous les trois, on se dit les choses cash je crois qu'on a un peu la même sensibilité. Puis, on a tous notre spécialité. Julien, beaucoup plus sur l'écriture. Moi, je fais l'écriture, mais aussi surtout la réalisation. Et puis, Samuel amène son expertise de comédien. Donc, c'est bien parce qu'il y a dans notre petit trio, il y a trois points de vue qui permettent d'être très efficaces dans ce qu'on fait.
Il est important d'ancrer ce personnage en bord de mer, justement, pour aussi amener peut-être ce souffle de liberté à la sortie de prison, d'amener justement de la lumière au personnage.
On voulait un décor qui soit glamour, on voulait un univers pour la série qui soit un peu féerique et qui soit aussi un peu en décalage avec ce personnage qui ne fait pas partie de ce monde un peu riche, un peu classe et qui lui peut s'y glisser mais en fait n'y appartient pas. Et puis aussi un autre facteur plus pragmatique, c'est que Samuel, habitant à Nice, c'était aussi quelque chose qui lui plaisait beaucoup. Il adore cette ville et on était parti sur cette idée de poser l'histoire à Nice. Et ensuite, on a fait des repérages après avoir écrit les deux premiers épisodes, découvert cet endroit magnifique et plein de décors qui sont très inspirants, justement très beaux, où le personnage peut être en décalage, toujours avec cette aisance, mais pas forcément à sa place. Et ça a beaucoup inspiré la suite de l'écriture.
C'est vraiment un personnage, quand il sort par la porte, il peut rentrer par la fenêtre. Hein. C'est vraiment ça, aujourd'hui, il ose tout, et il y va, il n'a plus rien à perdre. Il a une seule obsession, bien sûr, c'est retrouver le meurtrier de sa femme, de reconquérir le cœur de sa fille. Il va être flanqué d'une assistante drôlissime, qu'on va accueillir d'ailleurs lundi prochain, qu'on va vraiment mettre à l'honneur Giscard, parce qu'elle est extraordinaire aussi, très cash. C'est deux personnages aux antagonismes puissants, justement, c'est ça qui crée aussi la comédie du coup.
Oui, puis il y en a même un troisième qui arrive au troisième épisode et qui est très important aussi. Ça va être un trio plus qu'un duo pendant toute la série. Oui, ben nous, on voulait voir un personnage qui voit la vie du bon côté. C'est-à-dire que, voilà, est-ce qu'il rumine cette injustice il est aigri ou vengeur, ou est-ce qu'il profite des années qu'il lui reste à vivre? Et on est parti là-dessus et on trouve que c'est réjouissant de voir la vie de ce côté-là. Le fait de tourner à Nice, ça participe aussi beaucoup parce que c'est très coloré, il y a une très belle lumière et donc du coup c'est aussi réjouissant, ça va bien avec l'univers et le mental du personnage. Donc tout ça était très cohérent en fait finalement.
En tout cas, vous allez passer, c'est sûr, un très très bon moment, moi je vous le dis. 6 épisodes. Je vais poser la même question tout à l'heure à Samuel, mais en tout cas, vous, est-ce que déjà dans votre tête, est-ce que vous avez envie que Tom Villeneuve soit là sur plusieurs saisons?
Oui, on en a envie parce que l'histoire le permet. Et puis la manière dont c'est écrit, ce qui fait qu'il y a aussi des intrigues bouclées, ça permet de pouvoir continuer pendant un certain temps, tant qu'il y a des choses à dire sur le personnage et tant qu'il y a des situations à exploiter. Pour l'instant, c'est vrai qu'au bout d'une saison, on n'est pas arrivé au bout de nos envies, je pense, et de ce que le personnage a à offrir et de ce que tous les autres personnages qui sont autour ont à offrir. Donc c'est clairement une envie de Samuel aussi, j'imagine, mais il vous le dira tout à l'heure, et de Pierre et moi aussi, de pouvoir continuer. Après, c'est le public qui décide. C'est lui qui donnera le verdict.
Pierre, c'est difficile à décider TF1 d'arriver avec une série, avec Samuel Le Bihan en tête d'affiche, quand on connaît le succès d'Alex Hugo et l'empreinte de ce personnage. Est-ce que c'était facile à les convaincre? Parce que moi, je retire mon chapeau. C'est vraiment chouette, justement, de pouvoir faire ça.
Alors, non, ça n'a pas été difficile, en fait. Et on a eu une immense liberté. Donc ça, c'est assez incroyable, à toutes les étapes. C'est-à-dire que ça a été très simple à vendre. On n'a jamais dû se heurter à des choses qui nous contrariaient. On nous a laissé vraiment une totale liberté et on nous a fait confiance. Et ça, c'est quand même un luxe incroyable.
Ils ont bien fait parce que vous allez beaucoup rire, évidemment, aussi. Il y a des enquêtes, il y a plein de choses en tout cas. On va continuer à en parler avec son personnage principal, justement, Samuel Le Bihan, dans quelques instants. Mais on va écouter la bande-annonce, bien évidemment. Pierre, Julien, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci.
Et à bientôt. Tout de suite, la bande-annonce Carpe Diem. C'est cette semaine sur TF1. C'est parti.
Cette nuit-là, vous passez un moment ensemble. Et quand vous partez, elle est vivante.
Je vous le jure.
Je vais vous sortir de là.
Vous êtes bien avocat?
Ah, vous inquiétez pas, je serai sorti pour votre procès. Vous venez pour l'entretien? J'ai passé le barreau.
En prison, je sais. Vous venez de purger une peine de 17 ans pour le meurtre de votre femme.
Vous êtes bien renseigné.
Vos bureaux, ils sont où?
Je suis sur le coup.
Quand un type commet un crime, il a beau être le plus malin, il commet toujours des erreurs.
Vos méthodes sont douteuses, mais efficaces.
Carpe Diem, votre série inédite, bientôt sur TF1.
Allez, on continue notre spécial Carpe Diem. Et oui, ça y est, la série débarque. Samuel Le Bihan nous a rejoint après la bande-annonce. Bonjour Samuel.
Bonjour, bonjour.
Habitué de l'émission, hein, cette année on se croise beaucoup et c'est bon signe généralement. C'est qu'il y a beaucoup de beaux projets. Celui-là, c'en est un très très beau. On vient d'en parler avec Julien, avec Pierre. On a planté un peu le décor. Mais qu'est-ce qui t'a plu en premier dans ce personnage de Tom Villeneuve?
Ce qui m'a plu, c'est le côté solaire, vivant, drôle, insolent. Toutes les valeurs que transporte ce personnage de liberté, ben, c'est carpe diem, c'est-à-dire c'est profite de l'instant présent. Profite en goûtant tout ce que la nature te donne de beau, de bon, de grand. C'est profite des belles choses que te donne la vie à l'instant présent. Sans te soucier du lendemain, sans te soucier du passé. Et donc ça, c'est une espèce de liberté de penser, de vivre, de rencontrer, de saisir des opportunités que je trouve formidables. Et donc ce personnage extrêmement solaire.
Yousto.
Oui, qui ose tout, et il sortait un petit peu de mes habitudes, donc j'avais envie aussi d'un ton humoristique, d'un ton décalé, je parlais des ruptures, c'est-à-dire qu'il y a un rythme très soutenu, vraiment de rythme de comédie qu'on peut retrouver chez Feydeau, dans les grands auteurs de comédie, où il y a énormément de ruptures, donc jouer avec ça, c'est, il y a presque un côté, pas théâtral, mais un plaisir du jeu. Plaisir du jeu profond.
Ton personnage a pris 17 ans de prison, justement accusé du meurtre de sa femme. Et donc, il va profiter justement de ses 17 ans pour passer le concours d'avocat. C'est ça qui est assez dingue. Et puis en sortant, évidemment, lui, il va tenter de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Le but ultime pour lui, c'est de retrouver le meurtrier de sa femme. Mais pas que, c'est aussi de résoudre des fois des enquêtes à la place de la police. Il va s'avérer même des fois beaucoup plus efficace.
Ben, il a développé une compétence, c'est-à-dire que lui, il a fait du droit pour revoir son procès, et puis de fil en aiguille, ben, il a passé le barreau, il est devenu avocat, et donc il sort de ses 20 ans de prison, ben, il a un métier, et il va l'exercer parce qu'il a que ça pour vivre. Donc c'est à la fois, c'était pour refaire son procès, mais ça c'est pas fait, et du coup, à travers le métier d'avocat, c'est aussi reprendre une situation et peut-être essayer de la résoudre avant même d'aller au procès. Et puis, il profite de ça, de cet état d'esprit, de cette liberté pour enquêter sur sa propre histoire. Donc, il veut savoir qui a tué sa femme, trouver le véritable assassin, prouver son innocence, rencontrer sa fille qu'il n'a pas vu grandir et qu'il le voit comme un assassin et comme l'assassin de sa mère, ce qui est la chose la plus terrible. Vous savez, et il va rencontrer...
Sur la première scène, le regard, il est terrible, hein, entre vous deux. Enfin, surtout de venant d'elle.
Ouais, mais ce qui est beau, c'est que, voilà, il va y avoir cette quête où il va essayer de lui faire comprendre que non, qu'il est innocent. Il va falloir qu'elle accepte de le considérer comme innocent et qu'il lui explique ce qui s'est réellement passé et aujourd'hui, pourquoi il est là et ce qu'il veut faire.
Tu sais que quand il y a des avocats qui vont voir cette série, à mon avis, il y en a beaucoup qui vont demander le même bureau que toi. Avec vue sur la Méditerranée.
Oui, alors, comme il a pas...
Tu vois ce que je veux dire?
Non, mais c'est drôle, comme il a pas l'argent, il prend un container, un vieux container, et il fait ses bureaux dans un vieux container. Donc c'est pour montrer que, voilà, à partir de rien, il s'embarrasse pas Il y a une espèce de naïveté, il ose, parce qu'il ne veut pas considérer les difficultés, il voit que des possibilités. Et donc, il est avocat, il n'a pas d'argent, bon bah, ils vont se débrouiller. Et il se passe plein de choses, il y a des rencontres, parce qu'il est posé sur le port, avec vue sur les bateaux de la Méditerranée.
Et, recrute sur la plage.
Oui, il recrute sur la plage, il se met une petite table de camping et sa glacière, et il pose son premier bureau, il le met sur la plage, parce qu'il a pas d'endroit où s'installer. Et ses premiers dossiers, il va les éplucher comme ça, mais voilà, une plage, c'est un bel endroit, et pourquoi souffrir de travailler sur une plage? Donc il s'installe, et puis il va faire ses premières auditions là, pour, parce qu'il veut embaucher, il lui faut une assistante, et donc c'est comme ça qu'il va rencontrer Gisca, quoi.
Gisca, justement, Calvanda, qui sera notre invité, justement, lundi prochain aussi, pour parler de son personnage. Il va rencontrer une assistante très rentre-dedans, très cash, qui il croit qu'il va lui apprendre des choses, mais en fait, elle sait déjà tout sur lui. Et c'est ça qui va amener aussi beaucoup de drôlerie entre ces deux personnages.
Ouais, ils sont complètement opposés. Elle, c'est la rigueur. Elle est un peu comme un mur de prison, parfois. C'est-à-dire, elle rigole pas, c'est l'autorité terrible. Elle dit ce qu'elle pense. Et il n'y a pas intérêt à trop la contredire, quoi. Parce que elle a une espèce de sale caractère, en fait. C'est un peu comme ça qu'on l'a déterminé. Tom Villeneuve est un peu infantile, il est très puéril en fait dans sa façon de bouger, de rire, de parler. Il a une espèce d'énergie comme ça un peu juvénile. Elle va amener ce côté plus responsable et plus organisé dont il a besoin. Donc c'est pour ça que ce couple va bien fonctionner dans son opposition en fait.
Tu te vois sur la longueur incarner ce personnage de Tom Villeneuve? Est-ce que, en tout cas, si ça marche bien, on va tout faire pour nous, en tout cas de notre côté. Est-ce que tu es partant pour une saison 2? Est-ce que tu vas avoir le temps entre Alex Hugo et tous tes projets de pouvoir consacrer 3 mois comme ça sur une année pour une saison 2?
Moi, j'adore ce personnage. J'adore cette façon de jouer, ce ton de comédie, je disais, en rupture, avec une énergie constante. Il y a un rythme. Ça, c'est du plaisir de comédien pur, en fait. Du plaisir de jeu pur. Et rien que pour ça, c'est mon petit plaisir gourmand de pouvoir retrouver, si je peux retrouver ce personnage, ce serait vraiment sur ce plaisir-là. Donc, il y a quand même une histoire d'équipe, hein. Parce qu'il faut quand même que ce soit avec Pierre et avec Julien. Sinon, ça marche pas. C'est un délire de copains à trois, parce qu'on se connaît et on y met nos mêmes folies. Alors, là-dedans, il faudrait trouver que les gens qui viennent se greffer à ça soient dans le même état d'esprit, le même plaisir, les mêmes envies. Et si on connecte avec le public, ce sera formidable.
On adore, en tout cas, je peux te le dire. Samuel, merci d'avoir été avec nous. Il y a plein de projets à côté. Et puis, on va découvrir, en tout cas, donc Carpe Diem, nouvelle série événement de TF1. Merci d'avoir terminé cette spéciale avec nous. Et puis, la semaine prochaine, eh bien justement, c'est Gisca qui viendra nous rejoindre, ton assistante. Beaucoup de choses à nous dire aussi. Merci, Samuel.
Merci, merci à vous.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre invitée aujourd'hui, Sonia Roland, pour le grand retour de Tropique Criminel, qui est avec nous. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et comme tous les ans, au printemps, c'est le retour de Mélissa Saint-Rose avec Tropique Criminel, alors que c'est le tournage en même temps de la saison 7. La saison 6 débarque enfin, et de nouvelles aventures nous attendent évidemment avec Béatrice, ce duo. Ouais. Mais qu'est-ce qui peut nous faire rire?
Ben tant mieux, parce que nous on travaille dur pour qu'on crée la surprise chaque année, les auteurs en premier évidemment, mais non, cette année ça va être un peu plus musclé comme démarrage de la saison 6. On a Julien Seri qui signe les 4 premiers épisodes en réalisation, et puis on a une réalisatrice québécoise aussi, française et québécoise, qui signe les 4 prochains, qui s'appelle Marie-Hélène Coty. Et cette année, je trouve que on retrouve un peu plus ce qu'on avait un tout petit peu perdu sur la 5e saison, parce que on est devenu un peu trop copines, à mon sens. Je trouve que Mélissa Sainte-Rose et Gaëlle Crivelli redeviennent chien et chat.
Ça c'est bien. Ça va nous amuser beaucoup évidemment.
Ça va, et vraiment, hein, Crivelli revient vraiment en force.
Pour notre plus grand plaisir, il va y avoir de nombreux guests. Est-ce qu'il va y avoir un fil rouge un peu de cette saison aussi?
Bon, le thème c'est l'amour cette année. À la fois surprenant. Il y a pas mal d'accidents, heureux, parfois dramatiques, mais qui finissent toujours bien. Ouais, non, cette 6e saison, c'est l'amour le thème, vraiment.
Alors je sais que c'est éprouvant, parce que c'est 4 mois d'affilée, 4 mois en Martinique, loin de la métropole, et c'est un tournage où vous êtes toutes les deux quasiment sur toutes les scènes, sur tous les plans. Comment on vit justement un peu en vase clos comme ça, ces 4 mois? Est-ce que des fois, ça peut lasser aussi?
Bah, Moi, je me dis toujours que le jour où je me lasse de quelque chose, je le quitte, en fait. Mais la raison pour laquelle je pourrais quitter une série comme Tropic Criminel, ce serait pas la lassitude, ce serait l'envie de se renouveler, d'aller vers un ailleurs. Et je pense que ce jour-là, ça sera avec beaucoup de tristesse aussi. Mais en tout cas, cette série, moi, j'y suis attachée. Béatrice aussi, je pense que le public aussi, puisqu'ils nous le démontrent chaque année, ils sont fidèles au rendez-vous.
Là, c'est au moins 7 ans d'une vie, on peut pas, c'est sûr, oublier ça comme ça, un claquement de doigts.
On peut pas l'oublier parce qu'on crée aussi une sorte de famille en Martinique, on vit dans une bulle enchantée pendant 4 mois. Donc non, c'est très très fort, mais c'est vrai que l'actrice que je suis et les rêves et les aspirations qui m'attendent font que de toute façon, à un moment, on se pose la question de est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on n'arrête pas, est-ce qu'il y a moyen de changer peut-être de format, peu importe, mais cette...
D'arrêter à ce rythme et de venir peut-être plus avec des téléfilms événementiels aussi.
Exactement, ce qui a pu être le cas pour...
Candice Renoir, par exemple.
Candice Renoir, par exemple, et ce qui permet aussi de créer des intrigues peut-être un peu plus... tordu, un peu plus complexe, je sais pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose quand même, hein, parce qu'au bout de 6 ans, 7 ans, on a peur de lasser le public, nous. Hein.
Ben nous, non, on n'est pas lassés. Et je t'assure, on va être là, on va être au rendez-vous pour suivre vos nouvelles aventures, parce qu'on va beaucoup rire, on le sait, et puis on va avoir des enquêtes qui vont nous emmener sous le soleil des tropiques, on va pas bouder notre plaisir, en tout cas, pour ce printemps. Dernière question, avant de se quitter, c'est un énorme carton et un an et demi, un destin inattendu. Je sais que t'avais envie, parce qu'on s'est arrêté pile poil à l'élection. Est-ce que une suite est dans les tuyaux? Est-ce que t'as envie de te remettre à l'écriture? Est-ce que t'as envie qu'on suive cette année de Miss maintenant?
Alors, une suite directe de mon film, je suis pas certaine parce que je pense que ça requiert énormément de moyens. Est-ce qu'on me ferait confiance sur un deuxième projet avec autant d'argent? Je suis pas sûre. Donc,
je devrais pourtant.
Je me le mets de côté, mais je suis en train d'écrire. Je suis en train de développer à l'écriture un projet et j'espère pouvoir le tourner d'ici fin 2025, 2026, début 2026. Je l'espère. Mais en attendant, en tout cas, vous allez me retrouver en tant qu'actrice dans pas mal d'autres choses. Bah, en l'occurrence, un meurtre à Douai. Sous la direction de Pascale Guerre, qui est une réalisatrice avec laquelle j'avais envie de retravailler. Il y a un film aussi qui s'appelle Entre deux, de Jonas Dadeski, et on partage l'affiche avec Jean-Hugues Anglade, qui joue mon père dans une sorte de cadre familial. Et c'est un très, très joli petit objet qui, je l'espère, va rencontrer son public, quoi.
Merci Sonia, tu sais qu'on sera à tes côtés, t'hésite pas, tu reviens quand tu veux. Tropic Criminel, c'est grand retour, c'est vendredi saison 6, et puis on te souhaite un bon tournage de la saison 7 pour te retrouver pour de nouvelles aventures, évidemment l'année prochaine aussi. Merci.
Merci à toi.
Attends, faut que j'y aille.
Non,
je vais y aller.
J'ai pris ma dose de calme, on me reste encore un peu.
Non. Attends, puis de rester.
Arnaud, il faut que j'y aille là. Allez.
Attends.
Quoi?
Mélissa.
Oui?
Prends des forces avant.
Mais j'ai suffisamment mangé.
Juste un croque sur cette petite douceur sucrée symbolique de mon amour pour toi. Oula.
Oh là là.
Ça va?
Je crois que je viens de me casser. Mais qu'est-ce que c'est? Tête de mort?
Ok, c'est très moche, mais c'est très provisoire aussi. Mélissa Sainte-Rose, veux-tu m'épouser?
Oui. Je sais, je suis en retard, j'arrive tout de suite. Ok. J'ai un homicide, il faut vraiment que j'y aille. J'y vais. À tout à l'heure.
Voilà, merci Sonia. Et puis évidemment, on peut pas accueillir Sonia Roland sans accueillir Béatrice de la Boulay.
Bonsoir, bonjour, bonsoir, je sais pas quelle heure il est.
Bon, bah, merci, bonjour et merci d'être avec nous. Béatrice, tu as cartonné tout au long de cet hiver, effectivement, avec ton spectacle Héroïne, et te voilà repartie déjà pour une toute nouvelle saison de Tropic Criminel. La 7 est en tournage, mais là, on découvre la 6 qui arrive sur France 2, et c'est une saison sous le signe de l'amour. Alors, il faut dire que le début de saison dernière, on avait découvert une Gaëlle Crivelli qui avait un peu raccroché les gants, qui s'était retrouvé dans un espèce de camp survivaliste, qui vivait tous à poil au milieu d'un îlot en Martinique. Vous a tous envié, en fait.
C'est ça, le rêve, hein, en fait, c'est un peu ça. Ah oui, mais bon, finalement, le devoir a rappelé Crivelli, et puis évidemment, Sainte-Rose...
C'était en danger.
Oui, et Sainte-Rose peut pas vraiment se passer de Crivelli, c'est ça le... Voilà. C'est
y retourner.
Batman et Robin.
Et oui, c'est ça. Et là, une toute nouvelle saison inédite qui arrive, effectivement, donc on le disait avec Sonia il y a un instant, qui va être le signe de l'amour, et je crois que ça va bien aller à Gaëlle Crivelli, parce que l'amour, on en parle souvent avec elle. Hein.
Oui, bah Gaëlle, c'est une amoureuse, hein, donc voilà, elle s'amourache, mais là, effectivement, je pense que la fin de la saison 5 a laissé entrevoir une saison 6... normalement un peu plus stable parce que qu'il y a un Charlery dans l'affaire. Donc depuis le temps que les spectateurs attendaient que
qu'elle se stabilise un peu,
qu'elle se stabilise ou que plutôt qu'elle sorte avec avec Aurélien, c'est sûr que là c'était vraiment, les gens nous réclamaient vachement sur les réseaux que les deux se retrouvent ensemble. Donc je ne vous en dis pas plus, mais voilà, il va y avoir effectivement un peu de
romantisme dans l'air
entre ces deux-là qui s'adorent depuis tellement longtemps que voilà.
Tu comprends qu'on aime ce côté cash, ce côté libre de Gaël. C'est un personnage aujourd'hui qu'on adore. Tropic Criminal, c'est une des séries qui cartonne le plus aujourd'hui sur France 2, qui fait quasiment 5 millions tous les vendredis sans les replays.
Ouais.
Donc vous montez à des chiffres, mais c'est astronomique, quoi. Ça vous porte. Ça, pourtant, on est à chaque fois une nouvelle saison.
Oui, on est hyper contente. Et comme dit souvent Sonia, c'est aussi parce qu'on l'a fait avec énormément de sincérité. Cette série, on l'adore. On l'a fait avec beaucoup de cœur. On l'a fait vraiment dans un esprit de troupe aussi, avec notre équipe martiniquaise qui est géniale, qui est la même depuis 6 ans. On est une vraie famille, on aime nos personnages, on aime les histoires qu'on raconte, on aime ce qu'on défend, on réécrit tout jusqu'à la dernière minute pour être sûr que ce soit le plus sincère. Donc voilà, on y travaille beaucoup à cette série, donc on est ravis de savoir que les gens sont au rendez-vous. C'est ce qu'on souhaite et on donne beaucoup pour ça, tous.
Et vous faites ça pour ça, effectivement, évidemment, pour le public. Et puis vous avez fait connaissance d'un nouveau réalisateur pour ces 4 premiers épisodes, Julien Seri, notre ami Julien, qui a pris... un plaisir, je crois, énorme en tout cas à vous diriger.
On l'appelle Tac Tac Boy. Alors le mec, il est en tac tac toute la journée, il faut que ça aille très vite, machin, il veut des cascades, il veut de la bagnole, il veut de la baston. Nous, il nous a vraiment embarqué dans son énergie, il est complètement fou, il est très drôle, il rit très fort tout le temps. Toute la journée, c'est un gamin, quoi. On s'est vraiment retrouvé sur le côté juvénile, enthousiaste, énergique. On a adoré travailler avec Julien. Quelquefois, on le calmait un peu parce que on avait envie d'un peu plus de subtilité à certains moments. Et lui, il était en mode on trace. Et nous, on disait non, mais attends, là, c'est quand même chouette et tout. Donc, on s'est bien complété en fait. C'était super chouette.
Bon, un petit mot sur les 2 premières enquêtes là qu'on va découvrir vendredi.
Oui, alors premier épisode très très chaud. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est très sexy hot. C'est
Gaël Crivelli va encore donner de son corps.
Alors figure-toi que c'est pas Gaël Crivelli qui va.
Parce que si, ça va être Sonia donc.
Je ne sais pas. Je ne peux rien vous dire. Mais ouais. Vous allez en avoir plein les mirettes. C'est tout ce que je peux vous dire. Non, puis super super enquête. Il y a des super comédiens. Il y a de la cascade. Il y a de la baston. Il y a du sexy. C'est un très bel épisode.
Et on va découvrir encore 8 beaux endroits de la Martinique, évidemment, pendant ces épisodes, puisque chaque épisode est concentré sur un lieu de la Martinique, évidemment. Et là, ça en fait 48, hein, maintenant, avec ces 6 saisons, mine de rien. Et là, vous tournez à 7. On va monter à 56. 7 saisons, vous tournez à 7 déjà?
Non, oui, à 7 saisons. Ouais. Bah ouais. Quand cela s'arrêtera-t-il? On ne sait pas.
Non, on n'espère pas tout de suite en tout cas, mais on sait qu'à peine tu vas être revenu de la Martinique, tu vas repartir en spectacle avec Héroïne la saison prochaine.
Tout à fait, bah oui, objectif l'Olympia, donc faut bosser là, hein. Faut grossir les salles, hein. faut que t'en parles à tout le monde. Hein.
Eh bien, écoute, on va déjà grossir le nombre de téléspectateurs encore vendredi pour le lancement de cette saison 6 inédite de Tropic Criminel, un rendez-vous à ne pas rater. C'est notre petite réjouissance de l'année, j'avoue, de vous retrouver toutes les deux à chaque fois.
Si, bah nous aussi, c'est notre réjouissance de l'année de se retrouver toutes les deux là-bas.
Merci à toi, Béatrice, à bientôt.
Merci à toi.
Et on se quitte avec un petit extrait, allez, de Gaël Crivelli et de Mélissa Saint-Trousse dans leurs œuvres.
Ça fait des mois que la financière est sur le dos de Sam Garab. Ce type n'arrête pas de nous échapper avec son armée d'avocats, là. Si on arrive avec nos gros sabots, ça va le mettre encore plus sur ses gardes.
Commandante, vous avez raison. Les comptes du Diva Studio sont dans le rouge.
Vous voyez, si on arrive à prouver que Sam est impliqué dans la mort d'Erica Jones à cause d'un emprunt, ça donne des billes à la financière.
Oh, il nous faut du solide.
Il faudrait qu'on soit sur place pour observer ce qui se passe.
On fait une infiltration. Moi, je veux bien me faire embaucher comme serveuse. Hein.
Non, ils vont vous griller.
Vous n'avez qu'à y aller, vous.
Ah non, je sais à quoi vous pensez, non, je suis pas d'accord.
Bah, commandant, vous avez fait de la pole dance.
Ah, mais c'est bien, ça.
Bah oui.
C'est très bien.
Commissaire, j'ai pas touché à une barre depuis au moins 10 ans. Enfin non, c'est ridicule, arrêtez.
Commandante, vous vous sous-estimez,
mais
là.
Oui, Sam Garab se méfiera jamais d'une danseuse. Ah, c'est la meilleure idée qu'on ait eue, hein.
Ça va plutôt la mienne, non?
Oui, un peu.
Allez, ne bougez pas dans un instant. Enya Barou, Hélène Vincent et Juliette Gasquet nous rejoignent. C'est notre spécial. On ira tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé.
J'ai toujours eu ton cœur qui me collait et j'ai jamais eu peur de voir s'envoler. Depuis la première heure, t'es le seul qui me connaît. Je te connais. Chaque fois que tu le voudras, il y aura là avec toi ton meilleur allié. Chaque fois que tu le voudras, moi je répéterai 100 fois que ça va aller. Quand j'étais gosse, mon père m'a dit que j'aurais des tas d'amis, mais que ce sera jamais mieux qu'un frère. J'ai pris des coups et toi aussi, mais si on est encore ici, c'est parce qu'on était deux sur terre. Le monde a bien fait de te faire. Le monde a bien fait de te faire. Le monde a bien fait. Moi j'aurais rien fait sans mon frère. Moi j'aurais rien fait sans mon frère. Le monde a bien fait. J'ai toujours une voix qui résonnait. Jamais perdu la joie qu'on se donnait. Deviendra les rois qu'on se promet, je te promets. Chaque fois que tu te sens seul, oublie pas que j'ai pour toi tout le temps du monde. Chaque fois que tu te sens seul, oublie pas que mon cœur bat pour que le tien réponde. Quand j'étais gosse, mon père m'a dit que j'aurais des tas d'amis, mais que ce sera jamais mieux qu'un frère. J'ai pris des coups et toi aussi, mais si on est encore ici, c'est parce qu'on était deux sur terre. Le monde a bien fait de te faire. Le monde a bien fait de te faire. Le monde a bien fait. Moi j'aurais rien fait sans mon frère. Moi j'aurais rien fait sans mon frère. Le monde a bien fait. On ne choisit pas, mais si j'avais pu, je t'aurais choisi toi. Ce soir, il y aura un peu de nous avec moi. Le monde a bien fait de te faire. Le monde a bien fait de te faire. Le monde a bien fait. Moi j'aurais rien fait sans mon frère. Le monde a bien fait. Le monde a bien fait de te faire. Le monde a bien fait de te faire. Le monde a bien fait.
Moi j'aurais rien fait sans mon frère.
Les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné est consacré au film On ira, qui sort mercredi dans les salles, le magnifique film d'Enya Barou, qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Enya.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et de nous faire ce magnifique cadeau d'être accompagnée de deux comédiennes incroyables. Hélène Vincent. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Qu'on a dégusté dans Panda ces dernières semaines, justement aussi. Et Juliette Gasquet, qui nous offre une prestation incroyable. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Alors Enya, on va parler du sujet qui peut être compliqué, mais où tu as su le tourner sur le ton de la comédie de façon absolument magnifique. Parce qu'on rit, on pleure, on a tellement d'émotions qui se partagent dans ce film qu'on a du mal des fois un peu à en sortir, et tu nous en fais sortir à chaque fois en nous faisant rire. Ça c'est beau.
Bah merci beaucoup. C'est vrai que c'est un challenge d'essayer de faire rire avec ce sujet-là. Je sais pas si c'est un challenge réussi, en tout cas pour l'instant ça se passe bien, les gens n'ont pas l'air traumatisés, les gens rient. Donc voilà, moi je crois que la comédie c'est le meilleur remède voilà, pour traverser des choses difficiles, pour mettre de la distance, pour désacraliser certaines choses. Voilà, il y a des sujets qui font peur à tout le monde. La fin de vie est un sujet qui en fait partie, et voilà, je crois que ça fait du bien de pouvoir en rire un peu.
Il y a quelque chose de très personnel dans cette histoire aussi, parce que je vois que tu l'as dédicacé ce film à la fin, à ta grand-mère.
Oui, complètement. C'est un film qui rend hommage à ma grand-mère, à la relation que j'avais avec ma grand-mère, qui du coup est voilà représentée par Hélène, Vincent et Juliette Gasquet, magnifiquement interprétée, voilà, qui interprète cette relation petite fille-grand-mère qui me tient à cœur. Et oui, voilà, c'est un sujet. J'avais besoin moi-même de désacraliser la fin de vie de ma grand-mère, donc il a fallu que je lui écrive une fin de vie un peu plus gaie et un peu plus libre que celle qu'elle a vécue elle-même. Donc voilà.
Alors Hélène, vous incarnez justement cette grand-mère qui a 80 ans, qui décide, voilà, elle sait qu'elle est malade, elle sait que voilà, elle a un cancer généralisé, il y a pas de retour en arrière possible, et elle décide elle-même de sa propre fin et décide de partir en Suisse, mais évidemment, elle va pas oser le dire à sa petite fille et à son fils, qui lui est quasiment moins âgé dans sa tête que sa petite fille. Et donc ça va compliquer un peu la situation, mais elle va pouvoir compter sur un allié de poids. un aide-soignant incarné par Pierre Lottin. Il est génial.
Il est génial, Pierre. Ah oui, c'est de ce fait, elle s'offre presque un autre fils. Hein.
Ah bah c'est clair. Et puis ils vont partir pour un road trip en camping-car, tous les quatre en fait, qui va les emmener beaucoup plus loin qu'ils pouvaient l'imaginer.
Oui, mais ce pauvre garçon, il se trouve phagocyté par cette vieille dame qui a l'air si mignonne, si douce comme ça, mais en fait elle le manipule. C'est étonnant. Ce qui est très beau aussi, c'est beau cette idée de voyage tous ensemble. J'oserais dire que je souhaiterais ça. Pour moi, voyager comme ça, avec mes enfants, jusqu'à la Suisse. Ouais, je trouve que c'est une très très belle idée.
Il y a des scènes entre vous deux, Juliette et Hélène, qui sont juste dingues. Comment tu les as appréhendées, toi, Juliette ?
Avec peur. Mais en fait, grâce à Enya et Hélène, ça s'est bien passé. J'étais très bien accompagnée. J'ai eu beaucoup de chance sur ça.
Il faut dire que ton personnage, Anna, traverse en plus une crise d'ado. Elle se découvre. Alors, je vais pas dire qu'elle avait pas besoin de ça, mais évidemment, elle vit des choses très difficiles et tout s'enchaîne au fur et à mesure. Tout lui tombe un peu sur la tête, on a l'impression. Et surtout que ça va être la première qui va découvrir un peu le poteau rose. Donc, ça va être très, très compliqué pour elle.
Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi un peu la première à accepter le deuil. Et ça, c'est Enya qui me l'a un peu transmis. Et je trouve que c'est ça qui est beau aussi chez Anna, c'est qu'elle elle accepte. Elle le prend d'une manière peut-être mature. Donc, c'est intéressant.
David Ayala, et dingue, c'est un ado, quoi.
Ouais, c'est un ado, mais en même temps, ce que je trouve touchant, c'est que c'est un ado, mais parce qu'en fait, il est pas si ado que ça. Il est ado parce que je pense qu'il a pas envie de grandir, il a pas envie d'être face à des responsabilités, il a pas envie d'être face à la vieillesse de sa mère, la maladie de sa mère, face aux responsabilités financières, face à l'éducation de sa fille tout seul.
Comme tous les ados de 50 ans, quoi.
Exactement, exactement. Et en fait, je vais pas raconter le film, mais il va grandir. De toute façon, il a son parcours dans le film, il a une évolution. Mais oui, je pense que sa famille l'aide à grandir. À un moment, il est obligé de prendre ses responsabilités.
Comment tu t'es fait aider au niveau de l'écriture pour arriver toujours à doser comme il faut ?
Martin Darondo et Philippe Barrière, qui sont mes deux co-scénaristes, m'ont beaucoup aidé là-dessus. C'est vrai que moi, je suis très à l'aise avec tout ce qui est dialogue dramatique, scène d'émotion, parce que c'est ce que j'aime écrire le plus. Et je crois que Martin est vraiment venu amener la comédie. Martin, c'est vraiment mon binôme de comédie. Donc, on fait d'autres projets ensemble où c'est que de la comédie pure. Il n'y a pas du tout d'émotion là-dedans. Donc, quand je l'ai appelé en lui disant « j'aimerais que tu participes à l'écriture de ce projet-là », sachant que lui, il est pas très à l'aise avec tout ce qui est trop émouvant, justement. C'était pas anodin, quoi. Il m'a dit, OK, je vais amener mon ADN d'humour là-dedans. Et Philippe Barrière était vraiment là pour être un garde-fou de la structure, que tout soit crédible, que les personnages aient une vraie évolution, tout ça. Je pense qu'on a toujours voulu être sur le fil, en fait, que la comédie soit jamais grossière ou trop potache et que le drame soit pas trop tire-larme, en fait. C'est d'essayer toujours d'être sur un fil et de permettre les gens de rire sincèrement, sans que ce soit gaguesque, quoi. Voilà.
C'est de la dentelle, c'est le cas de le dire. On ira, ça sort mercredi dans les salles, on va écouter la bande-annonce et on revient juste après avec vous. À tout de suite.
C'est un petit trou de trésorerie temporaire.
Le découvert, ça fait 3 ans qu'il est temporaire.
Et ça, c'est quoi ces 1000 euros-là ?
Non, ça, c'est le compte de votre fille, ça n'a rien à voir.
Voilà.
Je sais que votre travail, c'est d'aider les personnes comme moi à vivre, mais je veux mourir en Suisse.
C'est prévu pour quand, votre...
La semaine prochaine.
C'est la semaine prochaine et votre famille, elle est toujours pas au courant.
Qu'est-ce que tu vas aller faire en Suisse, man ?
J'ai reçu l'appel d'un notaire. Faut y aller pour une histoire d'héritage.
Il y a combien ?
Je peux venir ?
Non, ma chérie.
C'est un truc d'adulte.
C'est un truc d'adulte et t'amènes papa.
Il faut que vous parliez à votre famille.
Vous pouvez pas mentir comme ça, vous.
Je vais trouver le bon moment.
Ma carte bleue passe pas. C'est près de 10 euros.
Tu veux t'acheter quoi ?
Mais rien
Je vais te donner 10 euros pour t'acheter rien.
C'est vraiment trop chiant, c'est pas possible.
Ils ont un gros problème de communication.
Ah, c'est vous êtes une experte en communication, vous, hein ?
On ira, le film à ne pas rater mercredi au cinéma. On a eu la chance de le voir il y a quelques semaines maintenant au Festival de Alpes d'Huez. On a passé un moment assez incroyable. En tout cas, Hélène Vincent, Jihad Gasquet et Enya Barou sont avec nous pour en parler. Hélène, est-ce que c'est un sujet qu'on peut appréhender quand on est comédienne de jouer ou au contraire, on se jette à corps perdu dedans ?
Ben oui. Je vois pas de sujet qu'on pourrait refuser quand on est comédienne. On est là pour ça, pour raconter des histoires. Cette histoire-là, elle nous emmène vers beaucoup d'émotions au bout d'un moment. Mais de toute façon, à l'âge que j'ai, je peux plus raconter beaucoup d'autres histoires que celles que celles qui s'approchent de la mort. Alors, c'est soit la mort, soit la maladie d'Alzheimer. J'ai pas mal donné. Mais c'est des histoires comme d'autres, c'est les histoires que moi j'ai la chance de pouvoir raconter.
c'est une chance d'avoir l'âge que j'ai, de continuer à raconter des histoires au public, à mettre ce que j'ai dans mes poches, de voilà ce que la vie m'a donné, à le mettre sur le plateau au service d'histoires racontées par des réalisateurs et des réalisatrices. Voilà, c'est une chance inouïe.
La rencontre avec Hélène, Juliette, quand on joue sa première scène avec Hélène Vincent et quand on sait le parcours cinématographique, télévisuel, théâtral d'Hélène Vincent.
Bah, c'est impressionnant au début. Et en fait, c'est un jeu, c'est très agréable, ça pétille, c'est trop bien. Enfin, on s'est super bien entendu.
C'est une grand-mère rêvée.
Oh, bah, mes grand-mères aussi sont des grand-mères rêvées, donc je peux pas tellement dire ça.
Mais là, de fiction.
Oui, voilà, oui. Une grand-mère rêvée de fiction, oui.
Est-ce que c'est une petite fille rêvée de fiction?
J'ai eu beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants grâce au cinéma, beaucoup de fils, et depuis 2-3 ans, des petits-enfants. Et Juliette, c'est une rencontre superbe, vraiment. Et c'est très émouvant, hein, de jouer avec une jeune fille et de la regarder et de se dire, voilà, elle s'est mise en route, jusqu'où elle va aller, qu'est-ce qu'on va lui apporter. C'est super, vraiment, c'est une grande émotion pour moi.
Dernière question pour vous trois. Votre scène préférée. Est-ce que vous avez un moment préféré du film ou une anecdote de tournage à nous raconter, chacune? Enya.
Ma scène préférée, moi je crois que c'est la scène de danse entre Rudy. Mais je veux pas raconter le film en fait. Je raconte le film là, c'est pas bien ça. Je raconte.
Une scène de danse avec Rudy qui est jouée par Pierre Lottin.
Ouais, une scène.
On n'en dit pas plus, mais
une scène vraiment où ces deux personnages, sont très très liés à ce moment-là. Et je trouve ça très très chouette. Et une anecdote de tournage. En fait, on en a pas tant à raconter. On dit tout le temps que c'est tout le tournage. On a vécu un tournage assez court de 25 jours, mais très intense où tout le monde est entré en fusion, que ce soit l'équipe ou les acteurs. Il y a vraiment eu une cohésion incroyable et on était tous très émus, tous très soudés. Mais vraiment, ça fait un peu cliché de dire ça, mais je vous assure que c'est vrai. C'est qu'il y avait vraiment une énergie. Voilà, on savait ce qu'on faisait, tout le monde s'est donné à fond pour ce sujet-là et on était tous très très... Je peux pas raconter une anecdote de tournage sans raconter la fin du film, mais en tout cas il y a une séquence de fin du film qu'on a tournée le dernier jour du tournage.
Et qui est ma séquence favorite.
C'est vrai.
Oui, oui. Eh ben oui, ah, voilà. Ça n'empêche pas.
C'est une séquence où Hélène n'est pas présente et c'était très très particulier de tourner ça le dernier jour parce que ça racontait la fin du film et on l'a tourné le dernier jour. Et donc il a fallu qu'on se dise tous au revoir après cette séquence et c'était très très émouvant. Ouais, ouais.
Juliette, pour toi?
Bah pareil, j'ai des anecdotes qui me viennent mais ça va...
Le rat.
Bah ma rencontre avec le rat.
Comment il s'appelle déjà? Lennon.
Et qui s'appelait vraiment Lennon dans la vie, c'était un rat qui s'appelait Lennon. Moi j'ai peur des rats, ça me dégoûte un peu et en fait au début j'arrivais pas trop à le toucher et tout, ça me dégoûtait. Mais finalement, déjà j'ai appris que c'était un bébé et que c'était une femelle. Et ça m'a un peu réconciliée. Oui, voilà, c'est ça.
C'est ton côté féministe.
Exactement, exactement. Et voilà, je l'ai adoré à la fin, j'allais le caresser entre les scènes et tout.
Mais bon, pour les bisous, il faudra repasser, ça.
Ah oui, là, bon, c'est trop. C'est trop me demander.
Hélène, est-ce qu'il y a une scène, alors favorite aussi, pour terminer?
Ben, je vous ai dit...
La même que Enya.
La même Kenya, voilà. Je suis pas dedans, c'est une scène absolument magnifique dont je ne vous raconterai rien.
Et ben vous faites bien, parce que le mieux c'est d'aller le voir au cinéma mercredi pour la découvrir, une scène de danse avec Pierre Lottin. On vous dit que ça sera à vous de la repérer, chers spectateurs. En tout cas, allez le voir, ça s'appelle On ira, ça sort mercredi dans les salles. Merci beaucoup Juliette, merci Enya, merci Hélène, évidemment, d'avoir été avec nous. Hélène, si vous avez raté Panda, c'est disponible sur TF1+, vous pouvez revoir les deux premières saisons. Et profitez d'Hélène Vincent aussi à la télé, bien sûr, aussi aux côtés de Julien Doré. Voilà, il y a plein de belles choses en tout cas pour vous tous. À bientôt.
Merci beaucoup, merci.
Au deuxième film?
Bah, on va sur une petite sieste d'abord.
Une petite sieste d'abord. Ok. Merci Juliette, merci Hélène, merci Enya. À très vite.
Entre celle qui ose pas dire ce qu'elle va faire en Suisse, celle qui ose pas dire qu'elle a ses règles et l'autre là qui comprend rien toute la journée, hein. C'est les plus belles vacances de ma vie. Au-dessus des vieux
volcans. Vis sa best life là. Sous le tapis.
C'est quoi ça?
Ah, mais ça, c'est
Lennon,
c'est mon rat.
Mais
mettez
cachez-moi ça.
Voyage, voyage. J'oublie les médicaments, je confonds les patients. Enfin, c'est un peu un miracle que j'ai tué personne, quoi. Avec vous, c'est pas pareil parce que.
Mourir.
Ouais, voilà, ouais.
Voilà.
Parce que moi, je me dis que si je fais une connerie, bah, du coup, bah, je. C'est pas très grave.
Ah, il est carrément mort le camion. On dirait qu'il y a des rongeurs qui ont mangé tous les fils.
Non, c'est pas les nonnes. Les nonnes, ils mangent que des céréales. Donc commencez pas avec les nonnes.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, ça sera l'événement avec la venue des Baudins pour la sortie du film, le nouveau film des Baudins, évidemment. On reparlera de la mini-fiction après la nuit avec Raphaël Langlais qui sera notre invité. Et on parlera du film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan avec Ken Scott qui sera avec nous. Et on parlera également de la sortie du film Prosper. Vous l'avez compris, donc on va encore pas s'ennuyer lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android Chute. On écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.